Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est toujours très heureux de vous retrouver pour ce nouveau week-end de sport. Et il va s'en passer des choses. Nous allons en parler dans cette émission, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, J-1 avant Roland Garros 2023. Ça fait 3 ans et bien qu'un Français n'a pas vu la deuxième semaine. Un bleu en 8e de finale. Pourrait-on parler de miracle ? Ce sera notre question. 10h, le bras de fer des GG autour de l'affaire Marine Johannes qui secoue le basket français. La meilleure joueuse des Bleus a été écartée de l'équipe de France. Dans quel camp êtes-vous, mes GG ? Oui, c'est un bras de fer. Il y aura une team Johannes, une team staff des Bleus et le sélectionneur Toupane. Et puis 11h, les GG passeront la seconde avec le 80e Grand Prix de Monaco et Charles Leclerc maudit sur ses terres. Croyez-vous au blocage psychologique ? Et puis ne manquez pas votre séquence dans les grandes gueules du sport. Le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Ce sera à 10h40 et à 10h, je passerai comme d'habitude dans les rangs pour savoir si vous avez une petite option sur un débat. À quoi pensez-vous ? Ce sera tout à l'heure. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme le FC Nantes, joue tout sur ce samedi. Ah, tu savais pas ? Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Ah, vous entendez la petite voix de Simon ? Je sens tête. Que... Ah, non, il n'y a pas fait... Tête, non. Attendez. Bordeaux a perdu ? Oui, c'est ça. Bordeaux a perdu.
Et pas, ouais, c'est... Ah, il est un peu tôt pour en parler.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ah, il est... Oh, on peut pas faire de vannes sur les Girondins ?
Bah oui, il y a plus que ça à faire, mais qu'est-ce que tu veux, quelle tristesse.
Attends, il y a la... Alors, pour tous ceux qui n'ont pas suivi la soirée de Ligue 2, le multiplex, Bordeaux était deuxième, à 2 mètres du bol de sangria d'aller en Ligue 1. Et là, Bordeaux est troisième, donc pour l'instant, le FC Metz est passé juste devant Bordeaux, à égalité de points, je crois.
Voilà, mais avec 3 buts de différence de but en moins, va falloir en coller 8 à Rodez vendredi prochain. Mais bon, on y croit. Pascal, je sais que tu m'entends, je sais que tu m'entendras.
Pascal Duprat.
On est dans le même bateau, je t'en supplie.
Non, vous n'êtes pas du tout dans le même bateau, parce que lui, il est plutôt en train de jouer le maintien.
Pascal, on compte sur toi à Bordeaux, okay. On t'a toujours soutenu.
Dijon affronte le Havre et on souhaite bon courage, évidemment, à notre ami Pascal Duprat. Une grande gueule qui, comme le FC Nantes, a un passé plus brillant que son avenir. Marie Martineau, salut Marie.
C'est n'importe quoi.
C'est gratos.
Ouais, mais non, mais alors elle est à côté parce que pour le coup, je suis quelqu'un d'assez tourné vers le présent, tu vois, genre ni le passé, ni le futur.
Oui, mais moi je t'annonce qu'au niveau de l'avenir, c'est pas rose.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, j'ai vu ce matin dans la boule de cristal, c'est pas.
C'est pas fou. Ouais, j'avoue.
Accroche-toi, il y a une tempête là.
Il y a des perspectives compliquées, mais bon, on va s'en sortir.
Ravi de t'avoir avec nous en tout cas. De nouveau dans l'émission, Marie Martineau, une grande gueule qui, comme le FC Nantes, est ingérable au quotidien. Stephen Brun, salut Stephen.
Salut JC, salut tout le monde.
Hello.
Plus ingérable que Valdemar Quitta, tu penses ?
Oui.
C'est vrai ?
Bien plus ingérable. Non, Quitta est plus ingérable.
Oui, voilà, oui. C'est ça. Oui. On m'a préfère dit t'avoir dans cette émission.
On m'a dit que récemment, t'avais fait des progrès de self-control et tout.
Ah oui ?
Ouais, j'ai des infos.
Non, mais c'est la maturité, évidemment, ça va avec l'âge. Tu réagis pas comme quand t'avais 20 ans.
C'est ça.
J'ose espérer que je suis pas le même qu'à 20 ans. Très problématique.
Sinon, tu resterais à peu près 2 heures dans cette émission.
Exactement.
Et puis, une grande gueule qui, comme le FC Nantes, a gagné. Oui, c'est vrai. Mais plus personne s'en souvient. C'est Marion Bartoli. Salut Marion.
Ouais, surtout qu'on fête les 10 ans cette année.
Les 10 ans de Wimbledon. C'est vrai, les 30 ans de Marseille, les 40 ans de Yannick Noah,
oui,
10 ans de Wimbledon.
C'est l'anniversaire.
Il y aurait une belle fête ou pas, Marion ?
Ah bah, obligé, obligatoirement. Parce qu'il faut aller à Dubaï pour faire la fête. Parce que
non,
je vais le faire à Londres, à Wimbledon. Allez, vous êtes tous invités, allez dans l'Eurostar, hop.
C'est vrai.
Prenez vos billets.
Moi, je suis chaude, hein. Je suis jamais allée à Wimbledon.
Puis
cette année, je pense qu'on ira pas à Roland parce que Sarah y est pas trop, donc
c'est chaud. Ouais, on va tous à Wim. Je pense qu'il va falloir voir au niveau de la déloc parce qu'au niveau de la caillasse, avec
une robe blanche.
Ça va pas passer avec les patrons. Non, j'ai pas de. J'ai un peignoir blanc. On peut venir en peignoir blanc.
Ça marche, venez comme vous voulez. Venez comme vous êtes.
Ok, les copains. Allons au début de cette émission. Je sais que vous le demandez, vous le réclamez avec un proverbe péruvien. Je vous le cite. Le fumier n'est pas sacré, mais il fait bien des miracles.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Christina, Il reste plus que Caroline Garcia dans le tableau. On n'est que mercredi. Est-ce qu'il y a un vrai trou générationnel?
On est en finale de la Fed Cup, donc je vois pas. Je trouve que la question est un peu mal placée.
Comment va-t-elle?
Oh, épuisée.
Déplacée même.
Elle a recommencé le tennis.
Vous pensez qu'il y a un trou générationnel si on est en finale de la Fed Cup?
Le tennis français qui est au fond du trou, on peut le dire.
Il n'y a plus de Français dans le tournoi.
Oui, je pense qu'il y a eu un dérapage malheureux.
Regardez cette stat, c'est un zéro pointé pour les garçons, zéro pointé pour les filles.
À un moment donné, arrêtez avec les statistiques ou alors c'est votre truc.
Là, c'est... C'est compliqué.
Vous avez préparé au combat?
Non, parce que j'ai été pas mal malade.
Je suis très content. C'était une semaine compliquée, j'étais un peu malade.
Depuis 6 ans.
Non, c'est vrai, j'ai été pas mal malade.
Un peu désabusé, parce que c'est une lutte qui est quotidienne.
Tu vois, quand le mec est à terre, pas trop shooté, quoi, les gars. J'aimerais bien me relever et vous dire, putain, c'est ce cauchemar est fini, mais là, je suis dedans et...
Ne m'enterrez pas encore.
Ils seront 19 sur la ligne de départ. 19 joueurs français à tenter leur chance pour aller le plus loin possible à Roland-Garros. En 2021, 2022, les tricolores ont fait chou blanc. Aucun n'a vu la deuxième semaine pour cette édition 2023. Aucun français ne sera tête de série. Vous le savez, notre meilleur au classement ATP est 38e. Il s'appelle Hugo Humbert. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Un français en deuxième semaine, faut-il parler de miracle? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Marion Bartoli.
Oui.
Marie Martineau.
Non.
Stephen Brun.
Oui.
Trois oui, un non avant de débattre. On va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio, en direct de Roland-Garros. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric. Je dis en direct de Roland, il se marre. T'es en direct de ton canapé, c'est ça?
Un peu plus,
vraiment,
oui.
Vraiment en direct de Roland,
pas ouais. Bon, Eric.
À son canapé et dans Roland-Garros.
Oui, c'est
et
ça.
Oui, il dort oui. Là-bas pendant 15 jours, tu sais bien.
Bon, Eric, le tirage au sort est-il un peu favorable pour nos Français ou pas du tout?
Écoutez, prenons les choses avec optimisme. Hein. Le tirage au sort, je trouve, a été généreux. Il y aura trois derbies, donc l'assurant d'avoir au moins trois bleus au deuxième tour. Et Nicolas Sudé, le directeur technique national, avait perçu un petit sarcasme quand on lui avait présenté les choses ainsi jeudi.
C'est moche. Mais c'était facile.
Bah, quand un gendre tricolore possède un vaisseau amiral inattendu, Hugo Humbert, le gaucher lorrain, a signé une campagne terrienne ébouriffante avec deux titres dans des gros challengers. Il lui a manqué seulement 15 points pour être tête de série, mais croyez-moi, ça n'empêche pas de dormir.
Et j'étais 70 ou 80 quand j'ai commencé la Terre et je me retrouve 38. Mais au final, je crois que j'ai fini 33e. Enfin, j'étais un dehors. J'étais pas loin de rentrer tête de série. Mais bon, c'est pas mal. C'est déjà bien.
Parmi les autres bleus, on aura un œil sur Lucas Pouille qui retrouvera au premier tour du grand tableau l'Autrichien qui l'a battu au dernier tour des qualifs. Et puis surtout, la nouvelle génération. Lucas Van Aché, Arthur Fils, l'Estonien est en finale cet après-midi à l'ATP 250 de Lyon. Et risque peut-être d'arriver cramé porte d'Auteuil, d'autant que le sort lui a réservé l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Et puis, on peut pas oublier dans ce catalogue Richard Gasquet, 20e participation, et Gaël Monfils. Ce dernier disputera peut-être son 16e et dernier Roland, et il va tenter de ravir ses fans, comme l'avait fait Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon l'an dernier. En tout cas, il a un petit message à vous faire passer, grande gueule.
Et vu que c'est la fin, faut me laisser tranquille un tout petit peu. J'ai envie de kiffer un peu ma fin et je suis content, je suis heureux, pour une fois je peux être sur le terrain en tant que joueur. Donc je l'ai bien dit, il y a plus d'attente à avoir sur moi. Il y a la nouvelle génération, maintenant allez faire chier la nouvelle génération, moi.
Voilà, on connaît Gaël, cache peut-être bien son jeu.
Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous sur ce débat. Allez faire chier maintenant la nouvelle génération. Bravo Gaël Monfils, c'était hier en conférence de presse au micro d'Anthony Reich. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, un Français en deuxième semaine. Faut-il parler de miracle? J'ai un nom, je vais aller te voir tout de suite. Marie Martineau, pourquoi non?
Parce que je pense que la vraie question que tu nous demandes, c'est est-ce qu'on y croit? Et bien sûr que j'y crois. Alors déjà, j'y crois au nom de la glorieuse incertitude du sport. Voilà, je suis contente de faire partie de ces gens optimistes. Après, j'ai un petit peu bossé. On a quand même 19 Français sur 126 inscrits. Ça fait quand même 15%. Donc, je me dis, on en a 29 de plus qui sont en qualif. Et dans cela, il y a quand même 11 Français dans le top 100. Donc, je me dis que, bon, déjà, avec un petit peu de chance, peut-être qu'il faudra combiner un concours de circonstances. Peut-être qu'effectivement, il faudra qu'il y ait une tête de série qui se trouve un peu et qu'en face de ça, il y a un Français qui sorte le match de sa sa vie, mais ça me paraît pas du tout impossible, en tout cas loin d'être un miracle. L'an dernier, on avait des pronostics pas spécialement meilleurs, pourtant on a quand même Gilles Simon et Hugo Gaston qui sont présents au troisième tour. Je crois qu'il faut faire une différence quand même entre un mince espoir, mais qui nous fait vivre, et un miracle. Tu vois, un miracle, c'est il y a 20 ans pile, un anniversaire de plus à fêter, c'est la grosse surprise de l'histoire du tournoi, c'est le Néerlandais Martin Verkeek qui, lui, se retrouve en finale, on ne sait pas trop pourquoi, d'habitude il a apparemment été plutôt fan des boîtes de nuit. Voilà, des miracles, ce serait, avec la composition de cette année des inscrits, ce serait un non-tête de série qui rentre en quart de finale. Ouais, d'accord, ça, ce serait un espèce de miracle.
Ou le miracle, c'est d'aller en demi-finale, voire d'aller toucher la finale pour un Français. Donc, miracle, voilà. Le mot est trop fort. Ok, j'ai bien compris. Marion Bartoli.
En fait, le problème, c'est que, effectivement, il n'y a pas de Français tête de série. Et donc, bien évidemment, il y a des derbies, donc on est sûr d'en avoir au deuxième tour, mais ces joueurs-là qui seront au deuxième tour vont jouer une grosse tête de série. Et d'après le tableau et la manière dont les Français sont tombés, malheureusement, je ne les vois pas arriver à battre ces têtes de série en question. Il y en a certains qui vont tomber sur des Sinner, il y en a certains qui vont tomber sur éventuellement des Djokovic. Arthur Fils, malheureusement, joue Davidovich Fokina, qui est un énorme terrien, qui va le faire jouer 5 heures et qui va le faire courir partout. Donc je me dis que, entre le fait qu'il n'y ait malheureusement pas de tête de série, donc ça ne protège pas en termes de tirage au sort. Et on a été plutôt assez clément parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui jouent contre des têtes de série. Mais au deuxième ou au troisième tour, il va y avoir des gros clashs et je ne les vois pas passer. Être au troisième tour, oui, je pense qu'il y en aura. Être en huitième, voire plus loin, c'est-à-dire une deuxième semaine, très honnêtement, là, il faudrait vraiment un miracle parce que les têtes de série à battre, on ne joue pas dans la même catégorie que les Français qu'on a cette année. Là où je suis d'accord avec Gaël, c'est qu'effectivement, il a fait les plus grandes années du circuit français, ATP, sur Roland-Garros, c'est lui qui a fait les plus belles années avec Joe et Richard, ils sont plutôt sur la fin, donc bien sûr qu'on va tourner un peu plus nos expectatives sur des joueurs plus jeunes, ça me paraît évident. Mais quand même, on attend lui, qui entre guillemets, qui finisse bien, donc on espère, oui. On espère qu'il va pas perdre au premier tour et qu'il va pouvoir enflammer le public et aller faire ses matchs de fou sur un cours Suzanne Lenglen ou sur un cours Philippe Chatrier plein à craquer, pourquoi pas une night. Voilà, on a envie de vibrer et de s'enflammer. Mais de là à se dire de manière très cartésienne que nos Français vont être capables de gagner 3 matchs, dont 2 têtes de série à battre pour être en 8e de finale, très honnêtement, je le vois pas arriver, malheureusement. Mais bon, j'espère qu'on parlera quand même un petit peu des filles et pas qu'on restera que sur le tableau masculin.
Mais la semaine dernière, on a parlé de Caroline Garcia et dans ce cas-là, on n'a pas parlé des garçons et on nous a pas dit « Ah, mais il faut parler des garçons ».
Je reste sur les garçons.
Mais on parlera des filles, évidemment, dans cette émission et tout au long de la quinzaine. On a raison d'être défaitiste ou pas ?
Oui, on a raison. Oui, je pense qu'il faut arrêter de croire au Père Noël et arrêter de se rassurer et de se cacher derrière. C'est à Paris, c'est devant le public, ça va leur donner un surplus de motivation.
Encore pas dit ça.
Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est la réalité du niveau du tennis des joueurs français et le niveau des autres joueurs, surtout, qui est bien supérieur à ce qui se passe pour nos joueurs français. Sur quoi on peut se baser pour imaginer un Français en deuxième semaine? On a quoi comme référence sur des gros tournois? Rien. Le néant. On me dit Hugo Humbert, il a gagné des matchs. Il a gagné des matchs en challenger. Hugo Humbert, il n'a pas gagné un match encore à Roland-Garros depuis qu'il a fait le tournoi. On me parle d'Arthur Fils. Arthur Fils, il va découvrir Roland, il a crampé hier sur Nakashima, donc il enchaîne, il est en finale, il va devoir enchaîner 3 jours après à Roland, au meilleur des 5 manches, donc il va être cramoisi, et Marion l'a dit, il joue un mec, bon, qui est pas un mutant, mais sur terre battue,
très dur.
Pas cadeau à aller chercher. Marie l'a dit, si un tableau s'ouvre, des têtes de série qui perdent, tu t'engouffres, mais moi j'appelle ça un miracle en fait, que les têtes de série soient éliminées, et que sur un concours de circonstances, tu te faufiles, tu joues des mecs qui sont moins bien classés. C'est que toi, j'appelle ça un miracle. Maintenant, c'est la réalité du tennis. Je veux dire, aujourd'hui, si t'as un garçon qui gagne 2 matchs à Roland-Garros, t'es content. Oui. Tu t'en contentes. Et des belles histoires, tu vas en avoir à raconter. Lucas Pouille, Gaël, mon fils, t'en auras. Ça va nourrir le tournoi, ça va nourrir RMC, ça va nourrir la ligne éditoriale. Mais à partir de lundi prochain, tu te concentreras sur Djoko, sur Medvedev, sur Medvedev, sur les mecs comme ça.
Ok, au moins jusqu'à lundi prochain, rassure-moi. C'est pas dès jeudi qu'on va s'occuper de Djoko.
Non, mais de manière historique, okay. En première semaine, on a toujours des belles histoires à raconter. Et déjà, celle de Lucas Pouille est magnifique.
Ok, et ça, je suis bien d'accord avec toi. Et on en reparlera tout le week-end. Lucas Pouille qui retrouve son niveau, en tout cas qui retrouve Roland-Garros. Et on est très heureux pour lui.
Et qui rejoue contre le même adversaire qu'en dernier tour des qualifications, au premier tour et tableau final.
Voilà, donc forcément, il il va s'imposer normalement, enfin on l'espère. Simon Dutin, défaitiste, pas défaitiste, j'ai bien compris le clan cartésien. OK, j'entends vos arguments, Simon.
Bah défaitiste oui, après mes collègues ont raison de dire que bon, miracle, on peut s'accorder sur la sémantique. Oui, ce serait hautement improbable, ça va être comme le disent Marion et Steve, ça va être le Roland Garros des Français, des belles histoires, on vient en famille, le cours numéro 14, on se régale dans les salées.
Oui, mais on a déjà vibré avec Hugo Gaston, oui, c'était un troisième tour,
on a vibré, mais regarde Gaston, t'as vu pourquoi on parle de lui cette semaine dans les médias. Bon, il en est à faire tomber des balles de son short pendant les points pour emmerder son adversaire. Bon, si c'est ça la solution pour gagner les matchs. Non, effectivement, je trouve Steve un peu dur parce qu'un beurre, effectivement, l'avouer, sa surface, c'est pas la terre. Il gagne à Bordeaux. Il y avait un gros tableau à Bordeaux. Ça fait longtemps qu'on avait.
À la Villa pas grosse.
Ah oui, écoute.
Ah, d'accord. On reste effectivement.
Non, la résurrection de Luca Puig, c'est une belle histoire. Je pense que ça va effectivement pas suffire. Son gars le disait cette semaine dans l'équipe. Il y a quand même un trou générationnel. Là, je parle sous le contrôle de Marion. Ça manque un petit peu de talent. N'est pas Alcaraz qui veut. Alors effectivement, Arthur Fils, Van Nash, moi, on aime bien ce discours. On en a parlé ici, Arthur Fils qui dit moi je veux gagner un grand chelem et tout. Bon voilà, tout doux. À mon avis, il est encore un peu vert pour nous faire quelque chose à Roland. Et puis là, je rejoins Steve. Je pense que effectivement, même si le Big Four a disparu, Federer est plus là, Nadal est pas là cette année. Je pense que la densité dans le top 100, même si on a plusieurs Français dans le top 100, elle est encore plus conséquente qu'avant et c'est encore plus dur qu'avant. Voilà. Alors pourquoi pas un Monfils quoi, à la Gilles Simon l'an dernier quoi, qui nous ferait une sorte de jubilé avec le public qui va forcément pousser, mais bon.
Donc vous êtes content à partir de quoi? À partir d'un troisième tour, un Français, deux, trois
dimanche,
Français au troisième tour.
Dimanche, je suis content de voir des matchs des Français, c'est bien, je suis content.
Ok, d'accord. Marion Bartoli.
Pareil, et Gaël peut jouer contre Holger Rune au deuxième tour.
Sachant que Gaël, ça fait combien de temps qu'il va pas jouer un match au meilleur des cinq manches?
Non, oui, à Paris, il peut toujours se passer quelque chose. Oui, mais oui. Mais en fait, c'est là où je veux en revenir encore une fois, c'est le problème du tirage au sort. Quand t'es non tête de série, tu vas obligatoirement en jouer une, soit au premier tour si t'as pas trop de chance, si t'as un peu plus de chance au deuxième.
Mais ouais, c'est
et ça, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir perfer déjà une fois pour être au troisième tour, et si tu veux être en huitième, deux fois, et si tu veux faire un quart, c'est trois fois.
Mais alors,
c'est très compliqué.
Est-ce que, sans faire mon optimiste convaincu, encore que j'en suis une, mais le fait que Nadal justement soit pas là et que ça ouvre les perspectives, est-ce que ça peut pas non plus aussi foutre un peu la pression à tous les autres qui sont attendus et qu'ils s'auto-cannibalisent en gros? Non, c'est une redondance, mais qu'ils se cannibalisent en tout cas les Medvedev, les Alcaraz, Djoko, tout ça. Finalement, tout le monde va vouloir cette place parce que là, elle
mais
est vacante.
Nadal, il n'est pas là à Roland, mais il n'est pas là depuis le début de la saison. Hein. Tous les Masters 1000, Nadal n'est pas là.
Je tente un truc.
Non, mais c'était la méthode couille. Moi, j'aime bien, Steve, tu
me réponds. On parle de garçons qui ont l'habitude d'être sur le circuit, qui ont l'habitude de jouer des grands chelems. Il y en a certains qui ont déjà gagné des grands chelems, donc je ne suis pas sûr que l'absence de Nadal les inhibe en disant ça y est, il n'est pas là, faut qu'on gagne. C'est des mecs qui arrivent sur le tournoi avec quand même des références, qui ont l'habitude de jouer des tournois du Grand Chelem sans Nadal.
Mais pas un Roland Garros,
ils savent qu'il y a une bonne opportunité. Enfin, je suis pas sûr que les Djoko, les Medvedev, ils se mettent une pression incroyable parce que Nadal est pas dans le tableau.
Okay.
Un mot, Marion, sur le tableau féminin. Est-ce que là, une Française en huitième, on parlerait pas de miracle, rassure-moi.
Ah non, avec Caroline Garcia qui est cinquième, tête de série 5, bien sûr que non. Mais encore une fois, j'en reviens au classement parce que c'est vraiment très important de comprendre ça dans un tirage au sort d'un tournoi du Grand Chelem. Et c'est le positionnement des têtes de série est capital. À partir du moment, et c'est pour ça que dans le sujet, on entendait effectivement Hugo Humbert qui disait j'ai raté que pour 15 points. Si t'es tête de série, t'es protégé pendant deux tours. Donc, entre guillemets, le petit miracle, tu dois le faire qu'au troisième. Donc, t'en as besoin que d'un pour être en huitième de finale. Ça change complètement les choses par rapport à devoir te taper une tête de série, soit dès le premier tour, soit dès le deuxième. Et c'est pas des petites têtes de série. T'as des Français qui vont tomber sur des Djokovic, sur des Medvedev, sur des Rublev au deuxième tour. C'est des joueurs qui ont fait soit gagner Master 1000, soit les demi, soit des finales. Faut aller les chercher.
Le mot de la fin.
Par rapport à Caroline Garcia, c'est dur pour elle parce que autant chez les hommes, on n'en attend pas grand chose. Et s'il y a un mec qui gagne trois matchs, on est content. Et Caro Garcia, elle a la pression du peuple français, c'est-à-dire que tête de série numéro 5, si elle n'est pas en deuxième semaine, ça va être un drame. Et c'est ça le paradoxe entre les garçons et les filles, c'est que Caro Garcia, elle cristallise les espoirs du tennis français, garçon-fille. Et donc, sachant qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour elle, qu'elle n'est pas trop dans son mood de tennis, elle a des déclats où elle est un peu parfois down. J'espère que tout va bien se passer pour Caro.
Ok, 10 secondes Marion, vraiment.
10 secondes, je me suis rendue à Roland-Garros hier. Donc il y a une photo d'Yannick Noah, on peut mettre sa tête à l'intérieur, faire la photo avec le reste du corps d'Yannick Noah quand il gagne. Et juste à côté, vous avez pareil pour Caroline Garcia. Donc ça vous met juste le niveau de pression qu'il va falloir avoir d'accord, cette année à gérer, c'est-à-dire que Caro, Yannick Noah.
Et t'as pris le costume de qui ? T'as fait la photo ou pas ?
Non.
Pieds nus, bien sûr, le truc de Yannick. Hein.
Bien sûr. Et t'es obligé de chanter du Yannick Noah.
Yannick va chanter cet après-midi sur le concentré.
Et sinon, ça fait donc 40 ans que Noah a gagné à Roland-Garros. Moi, quand j'étais au club de tennis, il jouait encore. Quoi. C'est vraiment catastrophique ce temps qui passe.
Ok, t'as quel âge quoi, maintenant, Simon ?
40 ans.
Ah oui. Eric Salio, les festivités autour de Yannick Noah, tu peux nous en dire plus ?
Ah bah sous mes yeux, il y a une immense scène qui a été élevée sur le court Châtrier, donc on va avoir mal aux oreilles cet après-midi parce que je pense que là ils vont mettre la sauce. Yannick, je pense qu'il y aura Mats Wilander qui va le rejoindre. On parlait même de John McEnroe, mais ce sera la surprise du chef, mais ça va être sympa. Donc sur le central, ceux qui ont des billets pour cette journée Yannick Noah, puisque vraiment ce sera. C'est la journée Yannick Noah, donc ça va vraiment lancer le tournoi de manière merveilleuse avec un temps magnifique.
Il va nous faire péter un saga africain sur la terre battue, quoi.
Bah, j'espère.
Ah oui, quand même.
Avec Eric Salio derrière, comme ça.
S'il y a un concert, on veut saga africain.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de surprises. Eric Salio est déjà au courant. Toute la classe de Paris est déjà au courant de toutes les surprises. Vous suivrez ces festivités sur RMC, bien évidemment. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous. Deux choses à vous dire sur Roland Garros, un dispositif exceptionnel sur RMC. Une nouveauté cette année, RMC lance sa radio digitale. Tous les jours, les meilleures affiches du tournoi seront commentées en intégralité sur l'application RMC. Toutes les dernières informations, les interviews avec les joueurs, téléchargez l'appli RMC et vivez au plus près l'expérience Roland-Garros. Et sachez que demain, à 11h, nous reparlerons de ce tournoi. C'est le jour J. Joe Wilfried Tsonga sera notre invité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. La punchline des GG avec la polémique de la semaine qui concerne Vinicius, le joueur du Real Madrid, encore pris pour cible avec des insultes racistes. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Simon Dutin, Stephen Brun, Marion Bartoli, Marie Martineau. Dans 10 minutes maintenant, on s'en fout pas. Dans la besace, j'ai du LeBron James. Peut-il vraiment arrêter sa carrière ? Il a laissé planer le doute. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. C'est l'une des grosses polémiques de la semaine. Elle nous vient d'Espagne. Le week-end dernier, Vinicius Junior a encore été la cible d'insultes racistes. C'était dimanche à Valence, d'Espagne, aux États-Unis, en passant par l'ONU. Les marques de soutien ont afflué. La fois de trop, peut-être. La fois de trop, on l'espère. Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real, y croit. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Et je crois que la société, et pas seulement celle du sport, a pris conscience de quelque chose de très important. C'est un pas en avant qui est très important. Je crois que ça n'arrivera plus et j'espère que ce sujet sera rapidement résolu.
Je crois que ça n'arrivera plus, c'est l'une des phrases clés évidemment de Carlo Ancelotti, mais il y a une prise de conscience, c'est ce que nous dit l'entraîneur madrilène. D'accord ou pas d'accord avec Carlo Ancelotti, Marion Bartoli ?
Oui, d'accord, mais je pense pas qu'on va le régler comme ça en un jour.
D'accord. Marie Martineau.
Non, je suis pas d'accord avec lui.
Simon Dutin.
D'accord.
Stephen Brun.
Pas d'accord.
Pas d'accord. Tu commences, Stéphane.
Je commence.
Pas d'accord.
Encore une fois, je trouve qu'on est naïf et je suis déçu de voir que c'est Carlo Ancelotti, un mec que j'adore, que je respecte, qui tombe dans le panneau. Ce qui s'est passé à Valence avec Vinicius, ça fait un paquet d'années qu'on voit ces trucs affreux et on fait tous des raisonnements sur aïe. Et je crois qu'il y a une prise de conscience, ça bouge enfin, les joueurs montent au créneau sur le terrain, tout ça. Et ça recommence année après année. Si c'est plus en Espagne, ce sera en Italie. Si c'est pas en Italie, c'est en France. Quand je vois les horribles personnages qu'on a à la tête des fédérations, à commencer par Noël Le Graët qui n'est plus justement à la tête de la fédération, qui avait eu cette sortie Qatar il y a quelques années sur le racisme. Aujourd'hui, c'est Javier Tebas, le patron de la fédération d'Espagne de football, qui a été complètement déconnecté de la situation après l'affaire Vinicius, qui s'en prend aux joueurs avant de s'excuser ensuite. Tant qu'on aura des personnages comme ça à la tête des institutions, on s'en sortira pas. Tant que les joueurs ne reprennent pas le pouvoir, c'est-à-dire arrêtent le match, quittent le terrain et mettent dans la merde les ligues de football en disant nous on joue pas, il y a pas de championnat, rien du tout. Là on avancera. Mais aujourd'hui c'est que du pipeau. Ça reviendra. Ces gens-là sont dans les stades, sont imprégnés dans les stades, sont imprégnés dans les clubs de supporters. Et je mets pas tous les supporters en cause. Mais il y a toujours cette gangrène, il y a toujours deux trois mecs, quatre cinq mecs cancérigènes dans les clubs qui ont ces attitudes.
suis là. Il faut arrêter de croire parce que Tebas, parce que Florentino Pérez, le patron du Real, est monté au créneau, parce que Carlo Ancelotti est monté au créneau, on va faire disparaître ça. Aujourd'hui, c'est ancré dans le football et dans la société, dans le monde entier, le racisme, et on s'en sortira pas.
Ok, la prise de conscience, t'y crois pas. Avant de retourner voir le camp qui n'y croit pas avec Marion Bartoli, Marie-Martine, toi, tu y crois, la prise de conscience?
Non, pas du tout.
Marie n'y croit
pas. Non, je suis entièrement dans la ligne de Stephen. Et si tu veux, j'enchaîne.
Non, pardonne-moi, j'ai mal compris. Okay, alors, Marion Bartoli.
Non, moi, je suis plutôt d'accord parce que, alors là où je suis d'accord avec Stephen, c'est que je pense que ça va pas prendre un jour. Ça, c'est clair et que ça va prendre du temps, mais je pense que là, il y a une telle prise de conscience, c'est remonté tellement haut, il y a des prise de connaissance gouvernementale, il y a le gouvernement du Brésil qui s'en est mêlé, il y a la police qui a commencé à faire des arrestations, donc pour une fois, on sent quand même un tout petit peu plus de mouvement qu'auparavant. C'était simplement effectivement des paroles. Ah oui, c'est pas bien. Ah oui, oh là, qu'est-ce que c'est moche. Oh là là, on va essayer de faire attention. Et puis rien ne se passait. Là, on a arrêté 3 personnes, 3 jeunes après cet incident. Il y avait également 4 personnes qui avaient pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius avant un quart de finale de la Coupe du Roi sur un pont. Ils ont été arrêtés également. Donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience un tout petit peu plus importante. Néanmoins, là où j'apporte effectivement une certaine nuance, c'est que malheureusement, alors, toute l'Espagne n'est pas raciste, ça c'est certain, mais en revanche que certains Espagnols le soient, c'est certain aussi. Et donc arriver à aller jusqu'à des tranches de la population et arriver à faire changer les mentalités, ça prend plus qu'un simple match de foot, entre guillemets. Et ça prend plus qu'effectivement les instances du football pour arriver à faire changer ces mentalités. Donc pour moi, ça prendra du temps. Mais je veux rester optimiste et j'ai pas envie de me dire qu'effectivement ça restera totalement lettre morte et que malheureusement dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura éternellement les mêmes débats parce que ça en devient ridicule.
Ok, c'est passé. C'est quand même quelque chose pour toi, Marie-Martine.
On aura encore les mêmes débats dans 10 ans, je suis désolée de vous le dire, c'est une certitude, on les avait il y a 10, on les avait il y a 50, on les avait il y a 100, ça reste un truc. C'est un fléau, le racisme, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut qu'on passe par l'éducation. Je veux dire, arrêter des gens là, ben, c'est très bien, c'est sûr, ils ont fait des trucs innommables et heureusement qu'on a réussi à les arrêter, mais c'est loin d'être suffisant. Et là, pour faire de l'éducation et aller à la racine du mal, mais il y a un job de fou.
Mais le foot peut faire cette éducation.
Ben, certainement.
On peut se servir de ça.
Mais oui, alors je vais te prendre un exemple. On va dire, tu vis dans tes montagnes dorées, isolées et tout. C'est dans le club de foot de chez moi que je trouve qu'il y a le plus gros job de fait pour former des petits citoyens, pour leur expliquer que le sucre c'est pourri, dire du mal de ses camarades, et ben ça craint, s'entendre pour arbitrer des matchs, c'est cool. Enfin, donc c'est eux que je trouve sur le terrain les plus ambitieux quant au fait de les former dans leur petit corps de gamins de 7 à 15 ans. Je crois que c'est là qu'il y a vraiment du job à faire et c'est possible puisque je le mesure, ils le font. Au-delà de juste les réunir pour taper dans le ballon.
Oui, mais quand ça touche une star comme Vinicius Junior,
mais tu te rends compte comme si.
Non, mais on imagine que t'as vu le retentissement quand même de cette histoire.
Oui, ça mais c'est pas parce que l'ONU s'en mêle que. Ou fait une prise de parole comme ça que ça va. Non mais vous hallucinez ou quoi? Enfin je sais pas, ce qu'ils font, on est d'accord.
Que ça va tout régler peut-être ou pas, mais qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Simon Dutin, tu veux y aller?
Bah écoute, effectivement, je te dis pas qu'on va régler le problème. De toute façon, les gens qui sont racistes, c'est pas parce que tu vas arrêter les matchs qu'ils vont arrêter d'être racistes. Le problème, c'est que ça se manifeste plus dans les stades. Et ce que je constate, et je pense que c'est le constat que fait Ancelotti, il est pas stupide non plus, Stephen le sait bien et l'a rappelé, c'est que il y a cette fois-ci une universalisation de l'indignation. Et c'est ça qui est important. Lorsque l'ONU, le haut commissaire de je sais pas quoi, de l'ONU s'en empare, c'est un pas vers l'universalisation, la mondialisation de cette indignation. Je vous dis pas que ça va tout régler effectivement, mais les soutiens des présidents de différentes républiques dans le monde, le soutien alors évidemment de toute la communauté du football et à commencer par les plus grandes mégastars de Mbappé, Neymar, Lukaku, les joueurs anglais qui en ont souvent été victimes. Et cette universalisation, elle passe aussi, c'est important, par ces grands symboles, le Corcovado qui s'éteint.
D'accord, Simon, dans le texte. Mais quel est l'impact de tout ça sur un gamin de 5 ans qui aura 15 ans dans un stade dans 10 ans ?
L'impact, c'est que cette fois-ci, encore une fois, j'en reviens à ce concept fondamental, la force de l'émetteur, en l'occurrence de la victime, Vinicius, c'est peut-être top 5, top 10 des joueurs dans le monde à l'heure actuelle, effectivement. Peut-être que lorsque le match, je sais pas, il y a Dijon-Amiens qui avait été arrêté en 2019, tu vois, parce que Prince Guano avait été insulté, ils avaient dit à l'arbitre, écoute, moi, j'étais mignon. On arrête. Souvent, effectivement, on a rejeté la responsabilité sur les joueurs. Là, j'ai l'impression que cette universalisation de l'indignation, elle va servir à toucher des gamins aux plus vieux. Et encore une fois, tu ne vas pas régler le problème du racisme, mais tu vas peut-être permettre, parce que c'est aussi aux supporters et aux citoyens de faire leur travail. Quand tu as 3 connards dans les tribunes qui font des cris de singe, c'est aussi à toi de dire écoute, moi,
je ne veux pas. 3 connards ? Non, mais attends, on a vu les mêmes images.
Je ne veux pas
partager la tribune avec toi. Et là où je rejoins Marion, et il faut pas s'en cacher, même si on a nos problèmes en France, il y a des problèmes partout. Il y a un racisme ordinaire, un racisme, un racisme quotidien, effectivement, qui passe avec des blagues, avec le sourire. On plaisante en Espagne, en Italie, parfois au Portugal, en Grèce, dans les pays de l'Est, j'en parle même pas, effectivement. Et là, de toute façon, tu ne peux rien faire. Il faut s'organiser pour que ces gens n'assistent plus aux rencontres de foot. Les joueurs peuvent quitter la pelouse et les arbitres doivent effectivement désormais systématiquement avoir le courage d'arrêter les rencontres.
Juste quitter la pelouse, je voudrais vous faire écouter quelque chose. C'est notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était l'invitée de la chaîne L'Équipe, L'Équipe du Soir, cette semaine. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après.
Moi, je suis sûre qu'il va se passer quelque chose en Espagne.
Pourquoi ?
À la suite de ça. Pourquoi ? Parce que sur les féminicides, l'Espagne est le pays aujourd'hui qui est le plus efficace dans sa lutte contre le sujet. Parce qu'à un moment, la société espagnole s'est émue de féminicides en Espagne.
Comparaison
cette
n'est
mobilisation
pas raison. Pourquoi ça,
populaire.
Pourquoi ça pourrait...
Là, moi, je pense que les Espagnols réagiront. Et je pense que c'est un épisode sur lequel on va aider, là aussi, le foot à progresser. Le foot va avancer.
Et Amélie Oudéa-Castéra qui a invité les joueurs, les arbitres à arrêter les matchs en France s'il se passe des insultes racistes. Vous voulez tous prendre la main, Stéphane, vas-y.
En fait, il y a quelques années, Mario Balotelli, qui était quand même une superstar du foot dans son propre pays, était insulté parce qu'on pouvait pas, les Italiens n'acceptaient pas qu'un joueur qui représente la sélection soit noir. Et je suis pas sûr que parce que Vinicius est une star, ça fasse avancer les choses. Combien de journées contre le racisme on a fait? Combien de t-shirts portés par les joueurs non racisme à l'échauffement? Ça a pas fait avancer grand chose. Et quand je vois que mon sport, le basket, qui a longtemps été épargné par ce genre de choses-là, rappelez-vous, on a eu à un moment donné mon ami Loïc Acono en troisième division avait été aussi de bonobo, insulté de bonobo. J'ai l'impression que ça vient aussi au basket et j'ai l'impression que ça se généralise un petit peu dans tous les sports. Moi, je vois pas parce que c'est Vinicius une superstar éradiquer ces choses-là. Ou alors changeons le règlement. À un moment donné, changeons le règlement en disant une équipe qui reçoit s'il y a des insultes racistes, hop. Fin du match, perdu, pas de points à l'équipe. Là, peut-être que ça fera réfléchir les clubs et les instances pour nettoyer les tribunes. Mais il faut faire quelque chose. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant.
Le président de la Fédé espagnole, après, on peut dire ce qu'on veut des instances espagnoles, a quand même eu le courage de reconnaître publiquement, oui, nous avons un problème de racisme en Espagne. Il a pas essayé de cacher le problème sous la table.
Je vous rejoins
sur le fait que Tebas, c'est un peu une planche pourrie, le président de la Ligue, qui lui a dit, je vais recevoir Vinicius, et effectivement, ça ne va servir à rien. Mais déjà, que les autorités espagnoles admettent qu'il y a un problème à régler. Donc le club de Valence a suspendu d'ores et déjà à vie 3 supporters. C'est pour ça que j'ai dit 3 tout à l'heure, 3 supporters à vie de leur stade en Espagne. Bon, effectivement, ces gens-là qui sont assez stupides pour penser que des cris de singe, ça va dans la panoplie du supporter qui encourage son équipe. Bah, s'ils se font virer, interdire à vie de stade, on peut juste penser que ça va dans le bon sens. Je vous dis pas en effet que ça va tout régler, mais je pense que ça va effectivement dans le bon sens.
Okay, Marion et Marie.
Est-ce que les uns les autres, vous avez déjà essayé de convaincre une personne raciste que ce qu'elle pense, c'est pas la bonne,
dit,
c'est
tu pas le bon.
Tu changeras jamais les gens.
Tu changeras pas.
Mais là, c'est pas le racisme. Tu me parles quoi? Tu me parles de 3-4 personnes dans la tribune. Moi, j'ai vu des images de tribunes entières en train d'hurler Bono, tout ça. C'est pas 3-4 personnes.
Et là,
à ce moment-là, t'es hyper impuissant. Ces gens-là, on les changera pas. Tu ne les changeras pas. Donc, il faut reprendre le truc au départ, à la racine, et aller essayer d'éduquer. C'est de l'éducation. Il n'y a que ça qui changera la donne.
Ok, Marion Bartoli.
Alors, je suis pas d'accord sur plusieurs points, mais pour en revenir à mon point initial, la Fédé a quand même haussé le ton et de manière forte. Elle a quand même viré 6 arbitres du VAR, dont licencié un qui avait quand même fait sortir Vinicius parce que soi-disant il avait fait une faute sur un joueur, alors que c'était lui qui était étranglé quand même pendant le match. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a deux choses à discerner. Qui sont vraiment bien distinctes. Qu'on n'arrive pas à effectivement changer le racisme dans une couche de population générale dans un pays, ça bien évidemment que c'est extrêmement compliqué parce que c'est une politique générale et qu'on peut pas empêcher malheureusement certaines personnes d'avoir des pensées qui sont complètement abjectes et que l'on trouve abjectes, mais ça fait partie de la société. En revanche, arriver dans un sport, quel qu'il soit, à prendre effectivement des mesures pour écarter ces gens de manière radicale et à vie, ça les clubs, les instances du foot, de n'importe quel sport ont la possibilité de le faire. Donc je pense pense qu'il faut vraiment distinguer les deux choses. Mais effectivement, ça partira d'une espèce de réaction en chaîne, en partant du pouvoir politique. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du gouvernement brésilien. Ça va partir aussi du gouvernement espagnol, puisque le parquet de Valence a ouvert quand même une enquête pour délit de haine. Ça va partir de ça pour arriver à faire bouger toutes les instances du sport. Mais en revanche, éradiquer le racisme général sur la planète entière, bien sûr que c'est pas le sport qui va y arriver. Il faut quand même pas être naïf non plus.
On réglera pas le problème du racisme, mais on peut toucher à la passion des supporters.
Exactement.
Et dans ces cas-là, ça fera peut-être avancer les choses. Et pourquoi pas ? On l'espère, les mentalités. En tout cas, on souhaitait s'emparer de ce dossier ce matin dans les grandes gueules du sport. 9h45, on revient dans quelques instants. On s'en fout pas. LeBron James va-t-il arrêter ? La planète basket tremble. Stéphane, tu trembles ?
Pas du tout.
Stéphane, tu trembles ?
Pas du tout.
On va la refaire comme si on était en direct et tu me vends un petit peu la sauce. Ouais. Okay. La planète basket tremble parce que LeBron James pourrait arrêter sa carrière, Stéphane.
Oh, mais je dors plus la nuit. Je dors plus la nuit. Le mec qui vient de dépasser Kareem Abdul-Jabbar, tu te rends compte, il pourrait tirer sa révérence en ayant pris 4-0. Ça serait un tremblement de terre dans le monde du basket.
Un tremblement de terre. On y croirait pas dans quelques instants parce que c'est vraiment très important. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h49, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Stéphane Brun, Marion Bartoli, Marie Martineau, Simon Dutin à partir de 10h. On ouvre le débat. Marine Johannes, cette joueuse de basket internationale française, écartée par le staff parce qu'elle a fait un aller-retour aux États-Unis. Alors, dans quel camp êtes-vous, mes GG? Il y aura une team. Johannes, Marine Johannes, une team staff des Bleus. Évidemment, les GG ne sont pas d'accord. Vous pouvez voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Mais tout de suite, on s'en fout. On s'en fout.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner. Donc, LeBron James va-t-il prendre sa retraite? On s'en fout, on s'en fout pas. Marion Bartoli.
Ah, moi, je vais écouter Stéphane.
Ok, donc ça veut dire je m'en fous. T'as le droit de le dire.
Hein. Je m'en fous aussi, moi.
Aïe, attention.
Stéphane Brun. T'as pas le droit.
Je m'en fous pas.
Ah oui, évidemment. Marie Martineau.
Pour ton émission.
Marie Martineau,
je m'en
fous. Ok, Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Balayé par Denver en finale de la conférence Ouest avec les Lakers, son équipe. LeBron James laisse planer le doute sur son avenir en NBA. Son contrat arrive à expiration en juin 2025. Il a une option en tout cas jusqu'en juin 2025. Et il a peut-être disputé son dernier match cette semaine en conférence de presse. Il l'a même admis, hein, on verra, je n'en sais rien. Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. À titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket. Stephen.
Écoute, j'y crois pas un seul instant. Pour moi, c'est du pipeau complet. Il y a la déception d'avoir pris 4-0. Et quand tu t'appelles LeBron James, ne pas être champion, ça reste un échec. Je pense qu'il y a cette déception-là. Il y a, avec ces phrases-là, la pression mise sur le management des Lakers en disant, écoutez, moi, j'ai 38 ans. Maintenant, je suis pas dans la construction du futur. Moi, je veux être champion maintenant. Donc, une pression pour dire recruter des bons joueurs pour bien m'entourer parce que je veux être champion l'année prochaine. Il peut pas arrêter alors qu'il nous vend depuis 3 ans à vouloir jouer avec son fils qui rentre à la fac, donc ça sera dans 2 ans. Il peut pas arrêter parce qu'il va prendre 53 millions la saison jusqu'en 2025, et puis parce qu'il fait encore partie des 10-15 meilleurs joueurs du monde et que sur le dernier match il a fait 40 points, 10 rebonds, 9 passes. Donc tu vas me dire que LeBron James, qui s'auto-prétend dans la conversation du GOAT avec Michael Jordan, va arrêter sa carrière en ayant pris 4-0 contre Denver, en se faisant sweeper, j'ai du mal à y croire.
Ouais, tu sais ce qu'on dit de Denver ?
C'est le dernier des dinosaures.
Exactement.
Sweeper, ça vient de l'expression, tu sais, passer un coup de balai, tu sais, quand tu prends 4-0, voilà, non, mais comme je sais que t'es.
Moi, attends, je
suis fébrile en anglais.
Comme Simon sait que tu comprends rien.
Comme t'es fébrile en anglais, que le basket, c'est pas ton truc. Non, pas mieux que Stephen, tu vois. Je voulais me confronter à. Je voulais me confronter au spécialiste basket, pas mieux. J'avais à peu près les mêmes arguments. Je rajouterais qu'il a quand même déclaré cette semaine que même s'il laissait planer le doute, il se considère meilleur que 90-95% des joueurs actuels en NBA. Et encore, il a été prudent. Effectivement, c'est encore une fois, il fait partie de la classe des carnassiers. Il veut pas s'arrêter là-dessus. Il veut jouer avec son fils. Il y a de l'argent à prendre. Et je rajouterais que ce qu'on appelle les insiders, les mecs qui te remontent les infos. Là, en NBA, sont deux parmi les plus prestigieux à avoir annoncé que visiblement il serait de retour avec les Lakers
pour la saison prochaine.
Bon, ok, puis, personne
puis,
n'y
et
croit.
Puis, et puis lâcher cette petite phrase-là, quand tu viens de prendre 4-0, ça permet de discuter autre chose que du résultat de la série, tu vois, j'y sais.
Oh, c'est fin, c'est malin en communication, je devrais prendre quelques cours. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Simona Halep qui accuse les instances antidopage de tuer sa carrière. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Marie Martineau.
Je m'en fous.
Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Ok, Steve.
Je veux dire, je m'en fous pas si j'ai une petite intervention.
Il tue non seulement ma réputation, mais aussi ma carrière. L'ancienne numéro 1 de tennis, Simona Halep, suspendue depuis près de 8 mois pour infraction aux règles antidopage, a accusé cette semaine donc les instances chargées de lutter contre le dopage de lui nuire en retardant l'examen de son dossier. Elle a été suspendue à titre provisoire depuis le 7 octobre dernier, après avoir été contrôlé positif au Raxadusta. C'est bien, c'est bien dit.
Moi, j'en ai pris, c'est pas mal. Ouais.
Moi, c'est pas mal, ouais. Lors de l'US Open en août dernier. Marion Bartoli.
Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a une deuxième accusation où on dit, en tout cas, on l'a mise sur le banc en disant que son passeport biologique avait des soucis, en tout cas des incohérences, et que donc, effectivement, il y aurait un deuxième examen, pas seulement sur cette première contrôle positif qu'elle a eu, mais sur un deuxième problème qu'elle a. Donc, en fait, on repousse, et au plus on repousse, au moins on a le droit de jouer, et donc ça va faire de plus en plus longtemps, et si on se rapproche jusqu'au 7 octobre, elle n'aura plus de points. Donc, il faudra recommencer à zéro, avec en étant non classée, donc aucun classement. Et effectivement, ce qui est très difficile dans cette histoire, c'est que, moi, pour la connaître, pour l'avoir affrontée à de nombreuses reprises, c'est quelqu'un en qui je ne peux pas imaginer qu'elle se soit dopée, parce que c'est une énorme bosseuse, qu'elle fait tout absolument dans les règles, qu'elle est vraiment impeccable dans son attitude. Donc j'ai du mal à le croire, jusqu'à bien sûr qu'on me montre, en me prouvant par A plus B, que malheureusement il s'est passé quelque chose et que je connaissais mal la personne. Mais en mon fond intérieur, pour l'avoir côtoyée de nombreuses reprises pendant beaucoup d'années, je n'y crois pas une seconde.
Simona Halep qui encourt jusqu'à 4 ans de suspension dans cette première affaire.
Oui.
Je parlais de cette substance retrouvée dans son organisme.
Mais l'histoire du passeport biologique est important. Parce qu'en fait, le passeport biologique, c'est un suivi en continu avec des prises de sang pour voir s'il n'y a pas des irrégularités dans les taux sanguins, en particulier en termes de prise éventuelle de PO. Et c'est là où, effectivement, l'agence antidopage dit qu'il y a une irrégularité et donc va la soumettre à un deuxième procès. Donc, il y a deux choses à gérer, en fait.
Elle assure que des experts ont démontré que cette substance interdite s'était retrouvée dans son organisme à la suite d'une contamination d'un complément alimentaire et proteste, évidemment, toujours contre suspension.
C'est la défense de Richard Virenque, ça, non ?
À l'insu de son plein gré. Ouais.
Non, je n'ai rien à dire, finalement.
Finalement, personnel merci ?
Personnel merci.
Discipliné, Stephen. Dis donc, c'est vrai que tu as pris de la maturité.
Non, mais j'attends que le procès ait lieu. Je ne veux pas condamner une fille alors qu'on n'a pas les preuves. Après, s'il y a deux contrôles positifs aussi, passeport biologique, on verra la suite, mais je ne vais pas la détruire gratuitement non plus.
Ok, en tout cas, c'était une des phrases fortes qui concerne le tennis. On voulait vous en parler ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de basket et d'une suspension qui fait énormément parler, celle de Marine Johannes en équipe de France. Elle ne disputera pas l'Euro. Dans quel camp êtes-vous ? Mais GG, c'est dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.